à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous, il est 17h30 en temps universel, 13h30 ici à Washington. Bienvenue dans cette édition Le Monde Aujourd'hui du jeudi 15 août 2019. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo attend l'annonce de la formation du gouvernement. Le Premier ministre n'a pas encore transmis la liste au président Félix Tshisekedi. Au Burkina Faso, au moins 3 policiers tués dans une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes. En Mauritanie, hommage à Issata Kane, première femme ministre militante et écologiste décédée le 10 août à Nouakchott. Israël a refusé l'entrée à Rachida Tlaib, représentante américaine d'origine palestinienne, et à sa collègue Ilan Omar, d'origine somalienne. Elle voulait passer par Tel Aviv pour se rendre dans les territoires palestiniens. Dans 10 minutes, ne manquez pas l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Toujours pas de gouvernement en République démocratique du Congo, près de 7 mois après l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, alors qu'il a reçu depuis dimanche dernier les listes des candidats ministres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et de Cap pour le changement de Félix Tshisekedi, le Premier ministre Sylvestre Ilunga dit examiner les profils des candidats proposés pour voir s'ils sont conformes aux critères fixés pour entrer au gouvernement. Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, nous en dit plus.
Le Premier ministre est encore à l'étape d'analyse des listes des candidats ministres proposés par le Front commun pour le Congo et Cap pour les changements, annonce un communiqué de son cabinet. Le caractère sérieux de cet exercice ne laisse pas de place ni aux effets d'annonce, ni à un compte-rendu quotidien de ce processus dans le média, poursuit-il. Cette communication vient taire la rumeur qui annonçait ces dernières heures que la première mouture du gouvernement Ilunga aurait été rejetée par le président de la République parce que non conforme aux critères fixés. Sylvestre Ilunga a en effet présenté la semaine dernière au délégué du Front commun pour le Congo et de Cap pour le changement 10 critères pour la désignation des personnalités devant faire partie du gouvernement. On peut citer parmi ces critères ne pas faire l'objet des condamnations judiciaires fermes en RDC et à l'étranger, faire preuve de compétence, d'intégrité et de capacité de travail en équipe, ou encore veiller à la représentativité significative du genre et à l'équilibre géopolitique. Les ministres qui seront nommés devraient par ailleurs signer un contrat de performance avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'armée congolaise a mis en garde contre toute formation de jeunes au métier des armes en dehors des canaux légalement établis dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 130 groupes armés y ont été répertoriés et 1900 civils y ont été tués durant les 2 dernières années, selon un rapport publié par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo. En Angola, la Cour suprême a estimé qu'Augusto da Silva Thomas, ministre sous le président José Eduardo dos Santos, et arrêté en septembre 2018, était coupable de 6 chefs d'accusation, dont corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Au Cameroun, des marins asiatiques et européens ont été enlevés dans leur navire au large de Douala, a annoncé un responsable de la marine camerounaise. Dans le golfe de Guinée, ce sont souvent des pirates nigérians qui attaquent les navires et enlèvent des marins dans le but d'obtenir des rançons contre leur libération. Au Burkina Faso, 3 policiers ont été tués dans une embuscade dans le nord du pays. Selon l'UNAPOL, un syndicat de police du pays, ces agents étaient en mission de sécurisation d'un site de réfugiés à Djibo Mantao lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade. Rachid Palenfo est le secrétaire général de l'UNAPOL.
Nos collègues, comme d'habitude, sont allés pour une mission de sécurisation du site des réfugiés de Mantao. Et en cours de route, ils sont tombés dans une embuscade qui leur a été tendue par un groupe armé, très visiblement terroriste. Et malheureusement, l'attaque s'est soldée par 3 de nos collègues qui ont perdu la vie, un autre aussi qui est grièvement blessé. Il y a un autre blessé léger. Les 2 autres, ce sont des blessures légères en fait. Et ils sont hors de danger en fait.
Propos recueillis par Bagassi Koura. En Mauritanie, de nombreux hommages ont été rendus à Issata Kane, première femme ministre de l'histoire de ce pays sahélien. Militante féministe et écologiste, Madame Kane s'est éteinte le 10 août dernier à Nouakchott. Elle avait 79 ans. Une rue de la capitale a même été baptisée de son nom avant son décès. Au Soudan, les dirigeants militaires et les chefs de file de la contestation doivent samedi signer un accord historique ouvrant une période de transition vers un pouvoir civil après des mois de troubles. Le jour de la signature de l'accord coïncidera d'ailleurs avec l'ouverture du procès de M. Béchir, inculpé pour corruption. Au Soudan toujours, les chefs de mouvements de contestation ont désigné un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, le Soudanais Abdallah Hamdok, pour devenir Premier ministre du futur gouvernement de transition. Cet économiste chevronné a été vice-secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies de 2011 à 2018. Le Conseil souverain, future autorité chapeautant la transition, doit annoncer mardi s'il le confirme à ce poste. Le président Emmanuel Macron a appelé les maires de France à honorer les combattants africains qui se sont sacrifiés pour défendre une terre lointaine lors de la Seconde Guerre mondiale, en célébrant ce 15 août, aux côtés de ses homologues guinéens et ivoiriens, les 75 ans du débarquement de Provence. La célébration se déroulait dans la matinée à la nécropole nationale de Boulouri à Saint-Raphaël, dans le sud-est de la France, où reposent 464 combattants de la première armée française. Parmi les 230 000 soldats des forces françaises qui débarquaient en Provence pour libérer la France, la moitié étaient des soldats africains. Par ailleurs, 6 pays européens acceptent d'accueillir les migrants du navire d'une ONG espagnole. La France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg viennent à peine de m'indiquer qu'ils sont prêts à recevoir des migrants, a annoncé le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Encore une fois, mes homologues européens nous tendent la main, c'est félicité Monsieur Conte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la ville de Newark, dans la banlieue de New York, est confrontée à une crise sanitaire en raison de la contamination au plomb de son réseau d'eau potable. Les responsables de la ville de 285 000 habitants, à population majoritairement noire et hispanique, ont annoncé des distributions d'eau en bouteille en attendant de trouver la cause de la contamination au plomb qui pourrait affecter environ 15 000 foyers. Israël a refusé l'entrée sur son territoire de deux élus musulmans du Congrès américain. Le président Donald Trump a auparavant estimé que l'État hébreu ferait preuve d'une grande faiblesse s'il acceptait de les laisser fouler son sol. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Rachida Tlaib, représentante américaine d'origine palestinienne, et sa collègue Ilan Omar, d'origine somalienne, devaient atterrir ce week-end à Tel Aviv pour visiter les territoires palestiniens occupés. Le ministère de l'Intérieur a décidé de leur interdire l'entrée en Israël, estimant que leur visite s'inscrivait, je cite, dans le cadre d'activités de boycott anti-israélien. Ce matin, le président américain a écrit sur Twitter que ses deux élus démocrates, je cite, détestent Israël et les Juifs. Ilan Omar et Rachida Tlaib sont des musulmanes du Parti démocrate élus à la Chambre des représentants. Elles ont appuyé le mouvement boycott, désinvestissement et sanctions qui appellent au boycott économique, culturel ou scientifique d'Israël pour protester contre l'occupation des territoires palestiniens. Elles ont plusieurs fois dénoncé la politique israélienne face aux Palestiniens. En 2017, Israël a adopté une loi qui permet d'interdire l'entrée dans le pays aux partisans du boycott.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Zafaf Zarif, a estimé ce jeudi que la libération du pétrolier iranien arraisonné début juillet à Gibraltar par les Britanniques démontre que la tentative de piraterie des États-Unis qui réclamait la poursuite de l'immobilisation avait échoué. La Cour suprême de Gibraltar a autorisé ce jeudi le pétrolier iranien à quitter les eaux de ses territoires britanniques. Arraisonné le 4 juillet, ce navire était soupçonné de vouloir livrer sa cargaison à la Syrie. En Syrie, justement, les forces du régime syrien ont repris plusieurs villages à Idlib, une province du nord du pays dominée par des djihadistes, et se rapprochent de la ville clé de Khan Cheikhoun qu'elles veulent encercler selon une ONG. Une délégation militaire saoudo-émiratie se trouve à Aden, ville portuaire devenue le siège provisoire du gouvernement Hadi depuis que les Houthis se sont emparés de Sanaa. Le but de la discussion et le retrait des séparatistes de positions clés conquises aux forces gouvernementales à l'issue de combats meurtriers la semaine dernière dans la grande ville du sud du Yémen. Ces combats, rappelons-le, ont fait 40 morts et 260 blessés selon l'ONU. Un rassemblement de forces de l'ordre chinoise a été aperçu jeudi à quelques kilomètres de la frontière de Hong Kong. Le président Donald Trump a appelé Pékin à agir avec humanité face aux manifestations. Les précisions avec Irénée Hermanongbo.
Des hommes entrés ont été massés dans un stade de Shenzhen, la métropole située aux portes du territoire autonome. Il y a eu également des camions et des blindés de transport de troupes. Ils sont visiblement de la police militaire et défilaient en rang serré, brandissant des drapeaux rouges ou s'entraînaient à la course à pied, alors que d'autres circulaient à moto à l'extérieur du stade, à moins de 7 km de la frontière. La raison de leur présence n'est pas connue, mais Pékin a laissé planer le spectre d'une intervention pour rétablir l'ordre dans l'ex-colonie. La police militaire chargée du maintien de l'ordre dépend de la Commission militaire centrale, un organe dirigé par le président Xi Jinping en personne. Face au risque d'intervention, le président américain a demandé à la Chine d'agir avec humanité envers Hong Kong.
Le premier ministre indien Narendra Modi a défendu ce jeudi sa décision de révoquer l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, clamant à l'occasion du jour de l'indépendance avoir fait œuvre de pionnier. L'armée pakistanaise a annoncé de son côté que 3 de ses soldats ont été tués ce jeudi dans des échanges de tirs par-dessus la ligne de démarcation entre les deux parties du Cachemire. Les militaires ont dit avoir riposté et tué 5 soldats indiens. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. C'est l'heure de la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le gouvernement gabonais a interdit la pêche et la commercialisation de la carpe du fleuve Ogoué jusqu'à la fin août. Des centaines de carpes sont mystérieusement mortes le mois dernier et flottaient sur le fleuve. Les soupçons se portaient sur des mauvaises pratiques des pêcheurs ou sur celles d'exploitants miniers illégaux aux abords de l'Ogoué. Mais les analyses ont révélé la présence anormalement élevée d'une bactérie dans l'environnement. Le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé à la banque centrale de son pays de cesser de financer les importations de produits alimentaires. Cette initiative vise à améliorer la production agricole et renforcer la sécurité alimentaire. Le Nigeria a importé de produits agricoles d'environ 640 millions de dollars au premier trimestre de cette année. Terminons cette Minute Éco avec l'Afrique du Sud qui exempte de visa les citoyens de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de la Nouvelle-Zélande pour des voyages d'affaires ou d'agrément. Ces exemptions visent à accroître le tourisme et à créer des emplois. Les Sud-Africains souhaitent à l'inverse que ces pays assouplissent les conditions d'entrée pour eux. Des discussions pour des exemptions de visa sont en cours avec Cuba, le Ghana ainsi qu'avec Sao Tomé et Principe.
C'est le moment de votre page sportive qui vous est présentée par Yacouba Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Le championnat malien de football reprend après 2 ans d'interruption.
Oui, 23 équipes entrent en lice demain pour la course à la succession du stade malien de Bamako qui règne sur le championnat depuis 4 ans.
Vahid Halilhodžić est le nouvel entraîneur du Maroc.
Le franco-bosniaque succède à Hervé Renard qui a démissionné après l'élimination des Lions de l'Atlas en 8e de finale de la récente CAN. L'ancien coach du club français de Nantes a déjà entraîné au Maroc. En 1997, il avait conduit le Raja de Casablanca à un 2e titre de Ligue des champions d'Afrique. Vahid Halilhodžić a aussi été sélectionné de plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Japon et l'Algérie, qui l'a conduite en 8e de finale du Mondial 2014. Il fera sa première sortie avec les Lions de l'Atlas en septembre face au Burkina Faso en match amical. Le Maroc est logé dans le groupe E des éliminatoires de la CAN en 2021 avec la Mauritanie, la République centrafricaine et le Burundi.
Messi, Ronaldo et Van Dijk en lice pour le prix du meilleur joueur UEFA.
Oui, l'Argentin Lionel Messi du FC Barcelone, le Portugais Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin et le Néerlandais Virgil van Dijk, champion d'Europe avec Liverpool, ont été sélectionnés par un jury composé de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa et de 55 journalistes. Chez les dames, le jury a retenu 3 joueuses de l'Olympique Lyonnais, vainqueurs de la Ligue des Champions, l'Anglaise Lucie Bronze, la Norvégienne Ada Egerberg et la Française Amandine Henry. Les lauréats seront annoncés le 29 août lors du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. L'année dernière, c'est le Croate Luka Modric du Real Madrid et la Danoise Pernille Harder de Wolfsburg qui ont été honorés.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et voafrique.com. Place à présent notre tranche magazine. Aux États-Unis, les raids menés par les services d'immigration ont conduit à l'arrestation de plus de 1500 sans-papiers qui travaillaient dans des entreprises. Ils font partie des 250 000 immigrants expulsés en 2018 par l'administration Trump. Chaque année, environ 15 employeurs en moyenne font face à des accusations d'embauche de travailleurs sans-papiers. Les perquisitions très médiatisées ne dissuadent pas l'immigration clandestine tant que les employeurs ne sont pas tenus responsables de leur acte. Brian Padden fait le point de ce reportage qui nous est présenté par Irénée Hermanongbo.
Des agents de l'immigration et des douanes américains ont récemment perquisitionné cette usine de traitement de produits agricoles dans l'État du Mississippi. Lors de leur perquisition, ils ont arrêté 680 étrangers sans papier qui travaillaient illégalement dans ces usines. Difficile cependant d'accuser leur employeur d'avoir enfreint les lois fédérales sur l'emploi illégal d'étrangers, car il est peu probable qu'ils savaient auparavant que leurs travailleurs se trouvaient illégalement dans le pays. Les sanctions pour l'embauche des sans-papiers vont de 100 à 10 000 $ et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement pour plusieurs infractions. Selon les groupes anti-immigration, le manque d'application de la loi à l'encontre des propriétaires d'entreprises n'aide pas à combattre l'emploi des sans-papiers. Kevin Lynn de Progressive for Immigration Reform précise.
Nous attaquons les membres, nous n'attaquons pas la racine du problème.
De nombreuses entreprises utilisent le système e-Verify, un programme du gouvernement qui permet de vérifier le statut juridique des travailleurs. Mais le système ne semble pas parfait, car les documents frauduleux ne sont souvent pas contestés, offrant aux employeurs la garantie légale de maintenir leur main-d'œuvre. Les explications de Alès Naurité de l'Institut Cato.
Ma théorie numéro 1 sur e-Verify est que cela ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle il est populaire, parce que les politiciens peuvent paraître intransigeants en le soutenant, mais ils savent qu'il n'affectera pas l'économie locale.
Les groupes de défense des droits des immigrants refusent cependant que les travailleurs sans papier soient traités comme des criminels. Ils souhaitent que l'immigration légale soit élargie pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis. Alex Narwate de l'Institut Cato.
La politique numéro un dont nous avons besoin est de permettre aux travailleurs moyennement qualifiés de pouvoir venir légalement dans notre pays, de pouvoir travailler pendant un certain temps, ensuite de pouvoir retourner dans leur pays d'origine.
Selon les opposants à l'immigration, la question d'une pénurie de main-d'œuvre est un prétexte pour certains propriétaires d'entreprises qui ne veulent pas payer un salaire décent à leurs employés, ce qui doit être pénalisé selon Kevin Lynn.
Cette façon de faire doit changer. Et pour ce faire, il faut sanctionner sévèrement. Des sanctions allant même jusqu'à une peine de prison.
Les critiques et les défenseurs de l'immigration estiment que les mesures en place ont été inefficaces, mais il n'y a toujours pas cependant de consensus sur la manière de réformer le système.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque année à l'initiative de l'ONU. L'occasion de braquer les projecteurs sur les jeunes d'Afrique, le continent avec la population la plus jeune au monde. L'Afrique en tire-t-elle profit? Mais pourquoi les défis tels que l'emploi, l'éducation et la migration des jeunes perdurent-ils? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h10.
À quelques kilomètres de la jungle urbaine de Johannesburg, une jeune Sud-Africaine s'est lancée le défi de sauver les abeilles. Développer l'apiculture dans les villages afin de préserver l'environnement et booster l'économie locale, telle est l'entreprise de Portia Murundi. Asma Botmiklaks a été à sa rencontre.
Portia Murundi est ce qu'on appelle une héroïne des temps modernes. Cette Sud-Africaine a décidé il y a 7 ans de consacrer sa carrière au sauvetage des abeilles et avec elle, l'agriculture locale. Son but, sortir les villageois sud-africains de la pauvreté grâce à la production de miel local, biologique.
Le chômage est si élevé dans les communautés rurales. Les gens ne sont pas éduqués, mais ils ont des ressources naturelles qu'ils ne mettent pas à profit. Et c'est à ça que nous avons pensé, leur apprendre comment utiliser les ressources dont ils disposent et le faire grâce à l'apiculture.
Inspirée par son grand-père,
Portia Mouroudi a créé The Village Market, un marché virtuel sur lequel elle revend le miel des villageois. Elle enseigne ainsi l'apiculture aux fermiers et installe des ruches sur leurs terres cultivées sans pesticides. Tabone Dalla, agriculteur.
Avant, toutes ces fermes étaient négligées. Mais si vous allez faire un tour maintenant, vous pouvez voir qu'il y a plus d'activités. Cela est dû au Village Market parce qu'il nous donne accès au marché. Il nous trouve des clients pour nos produits, une clientèle type qui motive la communauté et qui nous pousse à vouloir continuer dans le secteur de l'agriculture.
Ambitieuse, la jeune femme a déjà installé plus de 800 ruches dans tout le pays. Elle veut aussi redonner aux jeunes le goût du travail de la terre.
Ces terres étaient des fermes cultivées il y a quelques années. Mais quand les grands-parents décèdent, les jeunes ne savent pas quoi faire de la terre et ils l'abandonnent.
Depuis 2012, le projet s'agrandit. La formation en apiculture s'est aussi étendue aux enfants de plus de 10 ans. Portia Mouroudi, créatrice du Village Market.
Nos enfants ont besoin d'une planète où vivre et leurs petits-enfants aussi. Alors sans les abeilles, il n'y a pas de nourriture. Alors pourquoi ne pas tous s'y mettre? C'est une cause qui en vaut la peine.
Cette année, les efforts de Portia Mouroudi seront récompensés par un prix, celui de la femme la plus influente des pays de la région SADC.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Au Maroc, être une femme et se baigner à la plage n'est plus un loisir. Les femmes sont harcelées simplement parce qu'elles portent un maillot de bain. Une campagne de résistance a été lancée sur les réseaux sociaux sous le hashtag « Sois une femme libre ». Mais rien n'y fait car les préjugés ont la peau dure dans ce pays musulman. Idriss Fall a joint sur une plage non loin de Casablanca, Khadija Rabat de l'Association des droits des femmes marocaines.
Moi, je suis à la plage de Fiberhal. C'est une plage à 45 minutes de Casablanca. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de familles. Mais le problème, c'est que de plus en plus, les femmes ne peuvent plus porter de maillot de bain tranquillement. Avant, les femmes portaient des maillots de bain, se baignaient et circulaient dans la plage. Maintenant, on a de plus en plus des regards qui sont sur le corps de des femmes et qui, des fois, qui mettent les femmes mal à l'aise. Ça montre qu'on est loin, qu'on a regressé.
Les hommes qui vous regardent, est-ce qu'ils vous font des reproches? Ils vous accusent de quelque chose?
Pour eux, une femme, ça veut dire que la place de la femme, c'est vrai qu'elle peut être dans une plage, mais elle ne peut pas être avec un maillot de bain. De plus en plus, on voit qu'il y a une régression sociétale et que les gens sont en train de regarder le corps d'une femme avec un maillot de bain, c'est comme un péché.
Mais il y a quelques années, ce n'était pas comme ça au Maroc. Comment expliquez-vous ce recul?
Oui, c'est avec le discours qui circule dans les médias, dans les journaux, dans les espaces médiatiques, dans la télévision, etc. Et aussi avec la montée du conservatisme. On ne peut pas nier qu'il y a une montée de conservatisme dans la société et que ce conservatisme, il est là même, il est placé dans les rues. Et il y a beaucoup de... C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé qu'il y a beaucoup d'harcèlement. Malgré que le Maroc a adopté une loi contre la violence à l'égard des femmes, mais la mise en application de cette loi n'est pas encore appliquée. Elle n'est pas conforme avec tout ce qui se passe dans la réalité.
Donc jusque-là, la femme marocaine ne dispose pas d'une totale liberté.
Non, la femme marocaine jusqu'à présent ne dispose pas de son corps, elle n'est pas encore une femme libre. Il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interdits.
Beaucoup de femmes préfèrent maintenant aller vers les piscines que d'aller à la plage.
Beaucoup de femmes préfèrent des plages privées, des piscines, etc. Sincèrement, je pense qu'à ce niveau-là, il faut avoir le courage d'aller... Moi, je suis en famille et je suis dans la plage. et je porte mon maillot de bain et j'exige que c'est mon espace de liberté et c'est mon droit en tant que citoyenne.
Mais en fait, le phénomène n'est pas seulement particulier au Maroc. C'est la même situation en Algérie, en Tunisie, en Égypte et même en Arabie Saoudite aussi.
Ah, on ne peut pas confondre l'Arabie Saoudite. On ne peut pas confondre parce que ce qui se passe à l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup d'interdits. Au Maroc, c'est pas la même chose. Ce qui se passe, par exemple, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, les femmes ont plus d'espace et sont là dans l'espace public. La femme saoudienne, il y a beaucoup d'interdits. On ne peut pas comparer l'incomparable.
Khadija Rabat de l'Association des droits des femmes marocaines. Congo, Brazzaville, le mythique orchestre Les Bantous de la capitale fête ce 15 août ses 60 ans d'activité, cet événement qui coïncide avec la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, donne lieu depuis quelques jours à de nombreux concerts. Arsène Séverin était sur place.
Les chansons des Bantous de la capitale sont reconnues et fredonnées dans tous les Nganda et bistrots de Brazzaville. L'orchestre a marqué l'histoire de la musique congolaise depuis 6 décennies, comme le décrit ici Véran Carole Yanga, chroniqueur de musique.
C'est toute une richesse, tout un patrimoine national. Ce n'est pas anodin si certains comparent l'orchestre Bantou à l'orchestre Aragon de Cuba. Voilà, donc cette comparaison vraiment veut tout dire. Si on parle de chansons intemporelles, c'est justement par rapport au contenu, au thème des chansons. On peut citer comme ça là, des chansons comme Masuwa, Osalanganini, Aimé Wabolingo, c'est des chansons vraiment très thématiques, voilà, qui traversent vraiment les générations.
Comment, pendant 60 ans, les Bantous de la capitale ont marqué leur histoire et continuent de s'imposer sur le marché des disques. Eddie Gombi, expert en droit d'auteur et producteur des Bantous, explique.
Mais je pense que c'est le style musical. À l'époque, on avait un style que faisait un peu de l'autre côté, un peu Grand Calais, qu'on appelle le fiesta, en fait, ce mélange de rumba et de salsa. Et Bantou l'a repris. Et n'oublions pas que Essou avait une touche aussi, très salsa, très antille. Donc du coup, il y avait un mélange. Il y avait ceux qui avaient une histoire forte Kinshasa, il y avait ceux qui avaient une histoire forte Brazzaville ou extérieur. Donc ça fait que Bantou, très vite, s'est positionné comme un groupe international par sa musique et par sa capacité à se déplacer au travers le monde. Pamelo aussi, qui était un latin de formation, donc du coup, il a apporté cette touche, en fait, ce que Pamelo avait déjà apporté aussi ailleurs à Rochero. Il a ramené ça chez Bantou, Kabako, et pour moi, peut-être l'un des plus grands compositeurs congolais. Hein, il vient de Bantou. Donc, et Jerry Gérard, grand guitariste.
Le 60e anniversaire des Bantous de la capitale se confond avec les 59 ans de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Le groupe mythique a pour cela fait le tour du Congo en livrant les concerts musicaux. Ils étaient 6 cofondateurs des Bantous en 1959. Il n'en reste plus que le doyen Edo Ganga, 86 ans, mais habile sur scène. Mélancolique et nostalgique, il se sent seul.
Même si ce côté financier est minime, mais au moins qu'on fête. Et c'est après cette fête que moi, Edo Ganga, qui suis le rescapé de cette, je pourrais dire, oh merci Seigneur.
Jean-Serge Essou, Pamelo Mouka, Cosmos Moutoiri, Kabako Lambert, Ougéry Gérard et Nino Malapé ont été les grands noms des Bantous de la capitale dont les prouesses ont traversé les frontières congolaises. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Georges Léonard Samuel, à la console, Nashwan Kali. C'était Ekia Badou à Washington et je vous souhaite une excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM, à Lomé, 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.